Il est 1h sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre. Deux livres qui nous parlent de la maladie, du handicap et de la difficulté de trouver sa place dans la société quand on fait partie des plus faibles, des plus fragiles. On peut être malade, on n'est pas que la maladie, nous dit un des invités. Et si l'écriture nous aidait à comprendre, à accepter, à s'accorder ? Alice est une adolescente brillante, la famille, la vie familiale n'est pas toujours au top, mais chacun se débrouille. Et puis jusqu'à ce que l'anorexie, appelons les choses par leur nom, s'impose et que la jeune fille doit être hospitalisée. Le temps est long, les adultes sont durs, peut-être même sans s'en rendre compte. Le temps s'étire sans savoir ce qu'il faudrait faire. Tombée du ciel d'Alice Develay est publiée chez l'Iconoclaste. Et puis pour Jérémy, il n'y a plus rien à faire à en croire la faculté. Le médecin est catégorique, il est dégingandé, il ne maîtrise pas vraiment ses mouvements. Ce qui lui pèse à cet ado de 17 ans, c'est de ne pas pouvoir communiquer. Dans un long monologue, il nous raconte ses malheurs, mais aussi ses tentatives pour trouver sa place dans la famille, au centre, avec les autres. « J'ai pas les mots » de Laurent Zeyer est publié chez Finitude. Souffrir sans les mots, c'est au pied de la lettre, c'est le thème de l'émission aujourd'hui.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Alice Develay.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous retrouver au pied de la lettre. Vous avez tout juste 30 ans et déjà une longue histoire avec la maladie dont vous avez décidé de faire un livre. 16 ans après être sorti d'affaires, vous écrivez ce livre en un mois. Comme une urgence. Vous êtes critique littéraire pour Le Figaro, donc les mots, ça compte pour vous. Sur votre chemin, il y a Sophie de Sivry, qui a fondé la maison d'édition L'Iconoclaste, qui est décédée, mais sans elle.
Je ne serais rien.
Expliquez-nous un peu cette rencontre et comment elle vous a accompagné, peut-être poussé, volontairement ou pas, à écrire.
C'était une rencontre assez merveilleuse et hors du temps. Tout s'est passé en novembre 2022. C'était à l'occasion de la première édition du dîner des primo-romanciers. C'est un temps, une soirée durant laquelle des primo-romanciers sont invités à partager leur expérience de l'écriture avec des écrivains confirmés. Donc ils ont un parrain, une marraine. Et en l'occurrence, moi j'étais invitée en tant que journaliste et je suis allée donc au CNL. J'ai cherché mon petit carton d'invitation et j'étais placée à côté de Sophie de Sivry, que je ne connaissais que de nom. Je savais que c'était une papesse de l'édition parisienne. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, je suis placée à côté d'elle. Donc j'avais des yeux d'enfant quand je l'ai vue s'asseoir. Elle était d'une élégance rare, très, très douce, très gentille, avec ce sourire et cette vivacité. Elle était très impressionnante. Et on a parlé pendant une heure ou peut-être une éternité de littérature. Et à la fin de cette soirée, elle m'a dit « Et vous, Alice, est-ce que vous écrivez ?» Et il se trouve qu'effectivement, j'avais écrit quelque chose, donc quelques mois auparavant, en un mois, effectivement. Je ne savais pas ce que ça valait. Et elle m'a dit « Mais envoyez-le-moi. » Et donc, je me suis demandé combien de temps il fallait attendre avant d'envoyer un manuscrit à une éditrice. J'ai attendu 5 jours, comme un SMS amoureux. C'était absolument terrible d'attendre. Et le 6e jour, donc le lendemain, elle m'appelle avec Sylvie Gracia, qui est mon autre éditrice. Elles m'ont dit « On a adoré ». Par contre, c'est beaucoup trop long. Donc, si tu arrives à couper en conservant la force de ton manuscrit, on te signe. J'ai repris un mois et un mois plus tard, on signe. Voilà.
Et il en reste du texte, malgré tout.
Oui, il en reste du texte,
même si
quand
vous
même.
Avez coupé, il en reste.
Bien sûr.
C'est pas forcément un livre très, très long, mais c'est pas.
390 pages.
Voilà. Il fait son choix. Bonjour, Laurent Seyer.
Bonjour.
Bienvenue au pied de la lettre. Vous avez longtemps travaillé dans le secteur bancaire jusqu'à décider de quitter les affaires pour vous consacrer pleinement à l'écriture, si j'ai bien compris. Grand amateur de foot et supporter de Liverpool, allez savoir pourquoi. Vous voyagez beaucoup, paraît-il, mais jamais sans de quoi écrire. J'ai pas les mots, c'est votre 4e roman. Comment on se met à l'écriture à 50 ans ? Il y a urgence, on lâche tout le reste ? Ou presque.
Non, en fait, l'écriture m'avait déjà happé bien avant, puisque je fais des études littéraires, un bac littéraire, une hypocagne, et donc dans ma tête, c'était clair depuis cette période-là et cet âge-là que j'allais écrire. Et la vie a fait que j'ai juste fait un petit détour d'une trentaine d'années par la banque et la finance internationale, que ça s'est avéré un peu incompatible avec, en tout cas moi j'ai pas réussi
un travail
à
d'écriture,
rendre les deux voilà, compatibles, même si effectivement j'écrivais dans les avions, dans les salons des aéroports, etc. Et puis j'ai fini par publier, et puis là je me suis aperçu que mener les deux de front était quand même compliqué, donc j'ai pas complètement déserté mes anciennes activités, parce que j'ai encore voilà des rôles non opérationnels dans des conseils d'administration, des choses comme ça, mais j'essaye d'accompagner des jeunes entrepreneurs, mais effectivement je voulais pouvoir m'y consacrer davantage, et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Et Liverpool alors, simplement soutenu par la banque ou...
Liverpool parce que c'est l'objet de mon second livre, et que c'est mon premier livre était sur Saint-Étienne, et donc j'ai toujours aimé ces clubs de foot dans des villes un peu populaires où le foot est davantage que du foot, et permet à une ville, une communauté, une population pas toujours reconnue de se retrouver déjà, de se créer des émotions, de se créer une histoire, de se créer une aventure, et ces deux clubs qui ont été marqués voilà par des épopées sportives et extra-sportives dans le cas de Liverpool, puisqu'il y a eu quelques drames avec des matchs qui se sont finis de manière un peu dramatique. Donc c'est sûr, c'est une ville, comme j'ai vécu 8 ans en Angleterre, c'est une ville qui m'a toujours beaucoup touché, et donc j'en ai fait un peu effectivement le décor de mon second roman il y a 4 ans maintenant.
Voilà, très bien. Et on verra qu'il y a une équipe de foot, Uber Eats, dans votre roman, on verra pourquoi et comment. On va commencer avec vous, Alice Develay. Alors, votre livre, c'est un roman, c'est l'histoire d'une jeune fille anorexique. J'ai déjà conscience d'être un peu caricatural en disant ça. Il y a plus que cela, on va y venir. Alice, dans le livre, c'est un peu vous, mais il y a bien une part de fiction, c'est ce que je veux pointer.
Tout à fait. Et merci d'insister sur le fait que c'est un roman, parce que je n'écris pas sur moi, mais j'écris à partir de moi. C'est des souvenirs, certes, mais il a fallu reconstituer une trame narrative, il a fallu donner une structure. Et puis, je voulais donner aussi la parole, surtout à toutes les adolescentes que j'ai pu croiser, des adolescents aussi, parce qu'il n'y a pas que des filles qui souffrent d'anorexie. Et donc, mis ensemble, ça donne une fiction, ça donne ce personnage qui est enfermé, malgré elle, entre quatre murs, dans un hôpital, et qui ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée du jour au lendemain, puisque personne ne lui dit qu'en fait elle souffre d'anorexie. Elle a 14 ans, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne mange que 3 pommes par jour, et elle ne sait pas que c'est une maladie à ce moment-là. Et donc il était important de pouvoir donner une temporalité à ce personnage-là qui s'est vu dépossédé dans la réalité de sa temporalité, de ses mots, de son langage. Il fallait aussi essayer de me donner en fait un panorama, une diversité de portraits de cette maladie. C'est pas on a tous des clichés en tête quand on parle d'anorexie. C'est forcément
au début, effectivement.
Voilà, c'est forcément quelqu'un qui est maigre.
J'allais dire des fantasmes.
Oui.
C'est un peu ça, quoi, malgré tout, un imaginaire.
Tout à fait. Alors, par exemple, le principal cliché, c'est que l'anorexique est forcément très maigre, elle est décharnée. Mais il y a des personnes qui ont un IMC, donc un indice de masse corporelle qui est tout à fait normal, mais qui souffrent d'anorexie. En l'occurrence, elles n'arrivent pas à manger, ou alors elles font des régimes sur régimes, et ensuite elles compensent derrière. Autre cliché, c'est qu'elles feraient un caprice, et donc elles refuseraient de manger, mais l'anorexique ne refuse pas de manger, elle n'arrive pas à manger. Et dans le livre, je dis d'ailleurs que l'anorexique ne fait pas, elle se défait, elle n'est pas dans la privation, mais elle est plutôt dans une disparition. Je dis aussi, par exemple, que l'anorexie, c'est pas aussi seulement qu'un problème avec sa mère, parce que ça, c'est une espèce de cliché qui est vieux depuis 100 ans, le cliché très freudien de la mère nourricière qui aurait donc pas donné assez d'amour à son enfant. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas, et c'est pas le seul problème dont peut souffrir une personne qui souffre d'anorexie. Donc alors, j'ai essayé de faire la part des choses.
Voilà, et votre personnage, là aussi, dit quand même qu'il aurait suffi de quelques mots de la mère, de mon père, de quelqu'un d'autre aussi. Il y a un moment, il y a une question de relation à l'entourage, aux autres, qui se pose.
Oui, je pense que
c'est le propre de l'adolescence d'ailleurs.
Tout à fait. Alors l'adolescent déjà est plein de contradictions. Du jour au lendemain, on se prend pour Dieu, et le lendemain, on se prend pour la pire des merdes possibles. Donc on est très en colère contre le monde, et on est aussi très en colère contre soi. Donc il fallait justement essayer de doser tout ça, essayer de montrer les relations avec les parents, les relations avec les adultes en général. C'est un âge assez critique, l'adolescence, parce qu'on n'est plus vraiment enfant, mais on n'est pas tout à fait adulte. On est parfois coincé dans le corps d'un enfant ou dans le un corps d'un adulte alors qu'on a la pensée d'un enfant, ou inversement. Mmh. Donc c'était toutes ces contradictions qu'il fallait essayer de mettre ensemble. Et puis, vous le disiez très bien, elle cherche à avoir parfois des mots, peut-être les mots de ses parents auraient pu l'aider. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience d'un mot qui a pu nous faire énormément de mal, et en même temps des mots qui nous ont fait tellement de bien qu'on s'est dit que peut-être ils pouvaient nous sauver. Et c'est aussi cette question-là que je pose, est-ce que le langage peut nous sauver ?
Mmh. Est-ce que le langage peut sauver la personne ? Est-ce que le langage peut aussi éviter d'enfermer la personne ? Vous écrivez à un moment, cette histoire c'est la mienne, celle de la narratrice, c'est à moi seule de l'écrire, pourtant, eh bien, je serai à tout jamais prisonnière de leurs mots.
Tout à fait. Ça vient d'une phrase qu'un jour, un de mes professeurs de philosophie, alors que j'étais en Cagne, en classe préparatoire, on discutait du langage, justement, et je lui disais, voilà, j'essayais déjà d'écrire à l'époque, mais je n'y arrivais pas. Et il m'a dit cette phrase qui me hante, il m'a dit, si vous cherchez à vous libérer par les mots, c'est que vous êtes toujours prisonnière. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il a tout à fait raison, c'est qu'il y a quelque chose de l'emprisonnement. J'étais emprisonnée avec cette histoire, j'étais emprisonnée avec ces mots qui se répétaient. Donc comment il fallait sortir de cette histoire ? Et la meilleure manière que j'ai réussi à trouver pour m'en sortir, c'était de faire comme si cette histoire ne m'était jamais arrivée. Et c'est là où la fiction arrive. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'histoire n'a pas été écrite à la première personne du singulier, mais à la troisième personne du singulier. Donc après,
pour mettre la distance.
Exactement, la distance nécessaire. Et après, c'est l'un de mes éditeurs qui, ayant lu le livre, m'a dit, mais non, en fait, il faut l'écrire à la première personne, ça serait beaucoup plus fort. Mmh. Là, la pirouette était possible, mais sinon, à l'origine, c'était impossible.
Mmh. Et c'est vous qui avez écrit, hein, je l'ai cité en début d'émission, on souffre d'une maladie, on n'est pas une maladie, ça vaut tellement pour tellement de personnes.
C'est très important, je pense que c'est difficile. Moi, déjà, je refuse, par exemple, quand on dit, je suis anorexique. Ce je suis qui arrimerait à une espèce de présent perpétuel, donc j'espère qu'on peut dire les choses différemment. Je souffre de, comme si ça pouvait laisser une espèce de porte de sortie, de comme si on n'était pas juste une identité. Je suis anorexique, je suis boulimique, je suis dépressive. On est autre chose que sa maladie. C'est un accident, c'est pas une identité d'être malade.
Mmh. Alors, dans l'histoire, il y a vous utilisez ce terme, cette Sissi, hein, qui va être une petite voix intérieure que Alice, l'héroïne, va écouter plus ou moins. C'est l'une des bêtes qui vit dans ma tête. Expliquez-nous.
Tout à fait. Alors, Sissi, c'est un peu la métaphorisation de l'anorexie. Pour vous représenter un petit peu la chose, toute la journée, la personne qui souffre d'anorexie a cette petite voix qui lui répète qu'elle est grosse, qu'elle est immonde, qu'elle est moche, qu'elle mérite de souffrir. Donc ça l'oblige à mentir à ses proches qui pourtant s'inquiètent. Ça l'oblige à parcourir des kilomètres les pieds en sang. Ça l'oblige à réduire ses portions de nourriture petit à petit à petit. En fait, c'est un peu un mauvais génie qui est là, qui ferait tout pour que cette personne souffre. Et paradoxalement, la personne qui souffre d'anorexie s'attache à ce mauvais génie, à ce démon, parce que elle est là en permanence, elle lui tient compagnie, ça devient un peu ce mauvais ange qui est là, qui prend soin d'elle, mais en prenant soin d'elle, elle fait tout pour la tuer. Donc c'est un rapport très contradictoire qui se mêle aussi à l'adolescence, ce qu'on disait juste avant. Donc c'est très ambigu. En même temps, elle a besoin d'elle pour vivre, parce que elle s'identifie à ce personnage-là, à ce monstre qui vit dans sa tête. Et en même temps, plus ce monstre vit, plus elle meurt, plus elle souffre.
D'autant plus que Sissi, il y a un côté très malin et insidieux. Hein, Sissi qui dit par exemple, tu as un corps comme un cerf-volant et tu voudrais le transformer en éléphant.
Tout à fait.
Il y a quelque chose aussi de, comment dire, de l'humiliation, quoi. Qui est entretenue d'une certaine manière.
L'anorexie est une souffrance perpétuelle. Le seul moment où ça s'arrête, c'est quand on s'endort. Et dès que vous vous réveillez, ça recommence. Vous avez encore ces pensées. Toute la journée, vous allez calculer combien de calories vous allez ingérer, comment vous allez faire pour essayer de maigrir, comment vous allez faire pour essayer de souffrir, parce que vous pensez que vous méritez de souffrir. C'est vraiment une maladie de la souffrance. On n'imagine pas les personnes qui sont là, qui n'arrivent pas à manger, parce que c'est quelque chose d'assez naturel, finalement, de manger. On se dit, mais enfin, c'est bon, c'est pas difficile. C'est extrêmement compliqué, parce que c'est une maladie, ce n'est pas un choix. On se dit pas du jour au lendemain, oh, mais je vais tomber anorexique. Ça culpabilise énormément, et pourtant il y a toujours ce discours, souvent encore même auprès de médecins, culpabilisateur, qui dit mais en fait tu ne veux pas manger.
Force-toi,
c'est pas compliqué. Donc on met en place, notamment dans les hôpitaux, ce qu'on appelle les contrats de poids. Donc c'est-à-dire, si tu prends un kilo, je te donne ton téléphone portable, parce qu'on t'a tout enlevé au préalable. Si tu prends un autre kilo, je te donne la possibilité de sortir 30 minutes. Si tu prends un autre kilo, je te donne la possibilité de voir ta famille. Et mais attention, si tu perds un kilo, tu perds le droit de voir ta famille. Si tu perds un autre kilo, sinon tu perds le droit d'avoir ton téléphone, etc., etc., etc. C'est du chantage. Et donc, on traite les anorexiques comme des criminels à l'heure actuelle, et je trouve que c'est un scandale.
Alors, votre livre, là, pour le coup, met effectivement... dénonce hein, la manière dont les médecins et dont les services hospitaliers se comportent face à ça. Alors que même Alice explique, elle demande, elle dit, attendez que je retrouve bien mes notes, elle dit à un moment, j'aimerais qu'on m'explique ce qui m'arrive, mais personne n'a le temps. Il y a comme une sorte de violence dans le monde médical que vous décrivez, mais aussi de sorte d'abandon finalement. Ils n'expliquent plus, ils n'ont plus le temps.
C'est là où je me fais aussi l'avocat du diable dans le roman. C'est que, déjà, on sait, les hôpitaux manquent cruellement de moyens. Il manque des gens, il manque du temps. Et en fait, malgré eux, même s'ils sont pleins d'envie, de bonne volonté, eh bien, ils en arrivent à être maltraitants malgré eux. Alors, évidemment, il y a des personnes qui sont juste nulles, hein, et qui font vraiment des choses bêtes, et à défaut de rien faire, ils font les choses mal. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de médecins, des psychiatres, des infirmiers qui essaient de bien faire, qui essaient de correctement travailler, mais qui, parce qu'ils manquent de moyens, parce qu'ils manquent de temps, deviennent maltraitants malgré eux. Et c'est ce que je montre dans le livre. Moi, ça me fait pas plaisir de raconter qu'effectivement, on maltraite des enfants, et ça me fait pas plaisir non plus de le dire, mais c'est la vérité. Et aucun médecin vous dira les yeux dans les yeux, bah oui, on fait du mal à nos enfants. C'est insupportable de le lire. Mais
on sent aussi que c'est tout un travail entre le soin du patient, mais aussi la psychiatrie qui s'en mêle, j'ai envie de dire,
oui.
À juste titre, je suis pas expert, je peux pas en juger, mais malgré tout, qui est une sorte d'aggravation de la situation qui peut-être enferme encore un peu plus le patient.
Oui, alors surtout il y a une sectorisation très forte. Je pense que c'est très propre à la France et à l'hôpital français, c'est-à-dire que il y a d'un côté le corps qu'on traite et la psychologie qu'on traite de l'autre côté, comme si on était deux entités distinctes depuis
Platon. À deux étages différents presque aussi.
En plus, on a le quatrième, c'est la pédiatrie, et le sixième, c'est la psychiatrie. Et encore une fois, moi, je mettrais n'importe qui au défi d'accepter de prendre 10 kilos, ce qui est plutôt simple, tout le monde peut prendre 10 kilos, mais de l'accepter mentalement. Et ça, par contre, c'est insupportable. Et ça, il faut imaginer qu'on dit aux anorexiques, mais il va falloir que tu prennes 5, 10, 15 kilos en fonction de la gravité de la situation, mais on ne traite pas la psychologie. Et quand on vient traiter finalement la psychologie, bah, c'est trop tard, la personne elle est déjà extrêmement mal dans son corps, donc on rajoute de la violence sur de la violence, et clairement, outre la psychiatrie, la pédopsychiatrie est vraiment le parent pauvre de l'hôpital, et on le sait, il y a des études qui paraissent tout le temps, il y a des articles qui paraissent tout le temps pour dire que c'est gravissime ce qui se passe en pédopsychiatrie, on manque de moyens, et pourtant on continue, et comme on ne sait pas faire, ben on maltraite les enfants, on leur donne des cachets qui n'ont rien à voir avec leur maladie. Pour ma part, et même d'autres enfants qui étaient dans le service où j'étais, on leur a donné des médicaments pour soigner la schizophrénie, pour soigner de la bipolarité, pour soigner de la dépression, parce qu'on ne sait pas traiter. Et donc, au lieu de dire et de reconnaître, je ne sais pas faire et je n'ai pas le temps en fait, de m'occuper de toi, je vais te donner des médicaments, comme ça tu vas te calmer, tu vas te mettre dans une chambre et je ne vais pas avoir besoin de m'occuper de toi pendant les 4-5 heures à venir. Ça sera toujours plus simple de faire ça.
On sent la façon dont vous le décrivez, et là aussi on va éviter de généraliser, mais malgré tout, un personnel médical qui est un peu démuni, qui ne sait pas trop comment faire, face aussi, il faut le dire, à une situation complexe, parce que Alice, effectivement, il y a cette question de la nourriture, mais ça va aussi par rapport à des mutilations, à une manière de se faire violence aussi.
Oui, alors c'est vrai que souvent, c'est pour ne pas rentrer dans des cas dans une généralité, très souvent les personnes qui souffrent d'anorexie ont des comorbidités, donc elles souffrent de dépression, elles souffrent de troubles anxieux, de scarification, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on doit sauver quelqu'un malgré lui? C'est aussi la question que je pose dans le livre. C'est à quel prix, en fait, de sauver les gens malgré eux? Qu'est-ce qui se passe quand, finalement, on devient violent malgré soi? Parce que on cherche absolument à sauver la personne qui est en face de soi et qui refuse absolument le moindre soin. C'est une question à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui on me disait, écoute Alice, c'est très simple, tu termines ta vie à 14 ans et tu ne vis pas ce que tu as subi pendant les 3 années qui ont duré derrière, parce que j'ai été hospitalisée pendant à peu près jusqu'à mes 18 ans. Donc tu termines ta vie à tes 14 ans et tu ne subis pas ce qui s'est passé là. Après, moi j'arrête ma vie avec mes 14 ans, parce que j'aurais préféré vraiment ne pas subir ce qui s'est passé derrière. J'ai eu la politesse, que je dis en post-face du roman, de ne pas être entrée dans certains détails qui étaient déjà assez insupportables comme ça. Mais vraiment, je m'interroge quand quand on nous dit, oui, on a tout fait pour vous sauver et vous êtes vivante aujourd'hui, vous devriez être, vous devriez remercier en fait le personnel hospitalier, mais à quel prix? À quel prix? Il suffit que je ferme les yeux pour voir justement les infirmiers qui étaient sur moi, qui ont été extrêmement violents, qui avaient des paroles extrêmement violentes. Et je suis pas la seule. Encore une fois, c'est pour ça que c'est un roman. Je dis aussi ce que j'ai pu voir de mes propres yeux d'adolescente à l'époque, quand j'ai vu des enfants qui ont été attachés, quand j'ai vu des enfants qui ont été traînés au sol. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils souffraient et on leur a ajouté de la souffrance en les violentant. Donc, je m'interroge sur la manière dont on cherche absolument à sauver les gens malgré eux par le biais d'actes extrêmement violents et le personnel médical est conscient des violences qu'ils font.
Et en même temps, vous écrivez « Tous les jours, depuis des mois, je tue la vie en moi et toujours elle résiste ». Il y a quelque chose de l'élan vital, malgré tout, qui persiste.
Ça, c'est une chose assez fascinante. C'est-à-dire qu'il y a une immense pulsion de vie chez la personne qui souffre d'anorexie. Elle tient absolument à la vie, mais de l'autre côté, il y a une pulsion de mort qui est incroyable. Elle cherche absolument à tout faire pour souffrir, mais en même temps, elle résiste. Son corps résiste et tous les jours, elle continue, ce qui me fait dire à un moment donné qu'il y a un petit côté Sisyphe chez cette personne-là, parce que tous les jours, elle pousse son rocher et elle fait tout pour souffrir, elle fait tout pour se détruire, mais en même temps, elle fait tout aussi pour tenir à la vie. C'est fondamentalement des personnes qui tiennent à la vie, elles ne veulent pas mourir, mais il y a cette espèce de, encore une fois, de mauvais génie, cette pulsion terrible en elles qui bat dans leurs veines, qui fait que elles sont confrontées perpétuellement à cette souffrance et elles savent pas quoi en faire et ça donne cette maladie-là qui est la plus tragique du monde.
Laurence Seyer, vous écoutez depuis tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Et puis vous avez lu aussi le livre d'Alice Develay. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben, c'est un livre qui est écrit avec une plume de fer, donc ça pique, ça griffe. Elle nous emmène dans le fort intérieur d'Alice et donc c'est violent. C'est donc on a les tripes qui se serrent un peu et comme elle l'a très bien dit, comme c'est vraiment de la littérature, c'est vraiment un roman. Et ben par son style, par sa manière de mélanger la description très clinique, c'est le cas de le dire, des souffrances d'Alice, mais aussi de nous donner son regard sur les autres, de nous faire partager la manière dont elle voit le monde, dont les gens interagissent avec elle. Et tout à coup, on s'élève et on entend des choses, et moi j'ai entendu des choses en tant que lecteur, qui dépassaient l'anorexie. Il y a par exemple des choses... alors moi, j'ai 5 filles, mais il n'y en a aucune qui ait été anorexique. Mais moi, je suis leur père, et il y a des choses sur la relation avec le père d'Alice dans le roman qui ont résonné en moi, même si ma fille n'était pas anorexique. Donc c'est ça, je pense, la force du roman, et ce qu'a très bien réussi Alice Develay, c'est justement à la fois de nous bouleverser par une histoire singulière, et en même temps par le talent de la romancière, de nous emmener vers un universel dans lequel tout le monde, en fait, peut trouver un miroir pour s'interroger sur lui-même, sur sa propre vie. Et moi, c'est comme ça que je l'ai lu.
Merci.
Ce qui compte aussi, il y a beaucoup de choses, hein, effectivement. Vous avez raison, Laurence Seyer, de souligner ça. C'est que ça dépasse simplement la maladie. C'est le rapport des amis, Solène, Candice. Il y en a qui rentrent, qui sortent, qui souffrent, qui conseillent, ça, c'est important. C'est quelque chose que vous montrez bien dans votre livre.
Des percées de lumière. En fait, donc du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus vos amis, vous n'avez plus vos cours, vous n'avez plus votre habitat, vous n'avez plus votre chambre. Et il y a ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui arrivent tour à tour, qui souffrent de maladies, donc d'anorexie, mais pas que, de dépression, de mucoviscidose, de diabète. Et comme vous n'avez plus rien, du jour au lendemain, ces filles qui arrivent, ça devient vos meilleures amies. Vous vous agrippez à elles comme si c'était votre branche, comme ça, au milieu d'une tornade, d'un ouragan. Et puis elles s'en vont. Et donc, vous êtes là, vous êtes largué encore, vous vous sentez abandonné, puis il y a une autre fille qui arrive. Et donc, vous recréez cette relation incroyable, parce qu'on devient des compagnonnes de souffrance. On se confie comme on ne se confiera jamais à personne, parce que ce sont des personnes qui, au-delà des mots, comprennent la souffrance. Parce que c'est quelque chose assez paradoxal. Quand on souffre, ça dépasse quelque chose du raisonnable. Donc, en fait, on en perd son propre langage. Et là, d'un seul coup, on se ressent, on se comprend. On n'a même plus besoin de parler. C'est un langage silencieux, mais on se tient la main, on se regarde et on se comprend.
C'est ce que vous écrivez aussi, hein. On ne s'habitue jamais à la souffrance, elle est chaque fois différente, chaque fois terrifiante. La douleur est un poison. Et en même temps, j'insiste un peu parce que c'est vraiment en filigrane dans votre livre, des petites lueurs quand même, des choses que vous nous dites de façon très, je veux dire, très pudique et presque poétique. La peur, c'est quand on a encore de l'espoir.
Oui, c'est terrible, hein. Et c'est vrai parce que, à un moment donné, donc,
la peur de mourir, la peur de la violence, la peur de
la peur de la violence. Mais cette phrase-là, c'est surtout parce que à ce moment-là, le personnage d'Alice est enfermé au service psychiatrique. Et elle est enfermée dans ce qu'on appelle une chambre d'isolement. Donc c'est une chambre où il n'y a rien à part un lit qui est fixé au sol. Et l'une des infirmières, à un moment donné, passe et elle s'étonne qu'Alice ne crie pas. Et en fait, elle lui dit, mais enfin, elle ne lui dit pas parce qu'elle n'arrive pas à parler, elle est droguée par les médicaments. Mais dans sa tête, c'est mais je ne crie pas parce qu'on crie quand on a de l'espoir. Et en fait, la peur crée l'espoir. Donc, en fait, c'est toute cette réflexion. Finalement, est-ce qu'on se tait parce qu'on n'a plus d'espoir? Est-ce qu'on se tait parce qu'on a honte? Est-ce qu'on se tait parce qu'on ne sait pas comment parler? On ne sait pas comment crier. C'est pas anodin de crier. Qu'est-ce qu'on crie quand on va pas bien? Qu'est-ce qu'on crie quand on a peur?
On va voir ça avec le roman.
Oui, il y a des onomatopées très intéressantes dans votre livre, en effet. Mais oui, effectivement, j'espère que c'est un livre qui n'est pas que sur l'anorexie, c'est un livre qui parle de solitude, qui parle de souffrance, mais qui parle aussi beaucoup d'amitié. Comment on arrive à tenir grâce aux autres, donc j'espère que c'est quand même un livre lumineux à travers les différents portraits que je fais des filles que je croise.
Tombé du ciel d'Alice Develay, c'est plus paru, l'Iconoclaste. Vous voulez bien nous lire un passage de votre livre ?
Avec plaisir.
On vous écoute.
On n'écrit jamais vraiment sur la douleur, mais sur son souvenir. J'aimerais parler des autres patients, sauf que je me sens creuse. Les mots tombent en moi sans trouver de fond. Est-ce que je devrais tout inventer? Parler de ces enfants comme de personnages de papier? Non. Je les veux vivants. Je m'en vais à la fenêtre et reviens au mur, soulevée par une émotion contradictoire. Mes jambes veulent partir et mes mains écrire. Oui, non, je jette le cahier et le reprends. Peut-être que c'est ça la folie, croire qu'on peut tout dire. Les mots qui ne se taisent pas, les pensées qui ne cèdent pas. Je me sens terrassée comme possédée. Tant pis si ce que je dis est affreux et faux. Il n'y a que les cons pour juger la beauté de la langue. Ils voudraient que les mots soient lisses, bien douillés, bien propres, comme l'eau d'un bain. Que tout soit propre surtout, trop gentil, trop mignon. Ils voudraient que rien ne dépasse, l'écriture est dégueulasse. C'est un charnier, un monceau de cadavres, une fosse commune. C'est l'eau dans laquelle on s'est lavé. Il faut que ça sente la sueur, la crasse. Chaque phrase doit être un accouchement, des draps blancs devenus rouges, une douleur. On n'écrit pas en pensant. Et ceux qui disent le contraire écrivent avec du savon. On ne maîtrise rien. On ne sait pas comment les mots sortent. C'est un cri, un vol, un rapt. Toute écriture est une blessure.
J'en ai souvent parlé sans en parler. J'ai effleuré le sujet. J'avais trop honte de raconter comment je me suis créé un monde isolé. Isolé de tout, des tables de famille, des rendez-vous joyeux que je voulais pas subir. J'avais peur de montrer aux autres que je ne sais pas me nourrir. Mieux vaut se laisser mourir. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? J'en ai souvent parlé sans en parler, je voulais pas mettre de mots, non. Vous dire que c'est une maladie, c'est vous raconter qui je suis vraiment. J'en ai gommé, dégommé, dévoré, trop bouffé de ce vide immense. Et dire que c'est alimentaire, moi je ne veux que remplir ma panse. Et toutes mes pensées. Si je mange, je vais en enfer.
Si je mange, je vais en enfer. Jonathan chante l'anorexie. C'est en 2024. Au pied de la lettre aujourd'hui avec Alice Develay pour Tomber du ciel, publié à l'Iconoclaste, et Laurent Seyer pour J'ai pas les mots, j'ai finitude.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Laurent Seyer, alors c'est Jérémy qui nous dit « Je n'ai pas les mots » et vous lui prêtez les vôtres pour qu'il puisse nous raconter sa vie mouvementée. Présentez-nous donc Jérémy, 17 ans.
Alors il nous dit « j'ai pas les mots », et pas « je n'ai pas les mots ». Mais c'est on a toujours tendance à revenir sur la langue telle qu'on la pratique et telle qu'elle est correcte, et c'est tout à votre honneur, mais c'est vrai que Jérémy, il a sa propre langue, d'une certaine manière. Et Jérémy, il est à la fois, comme il le dit lui-même, handicapé mental, c'est-à-dire que il a eu une asphyxie in utero, il a subi une asphyxie in utero pendant la grossesse de sa mère, il est donc né avec un cerveau endommagé, et du coup, après, tout un tas de handicaps se sont greffés là-dessus, et notamment un autisme sévère. Donc Jérémy ne parle pas. Il ne s'exprime que par des grognements. L'objet du livre, c'est d'une manière un peu mystérieuse de rentrer dans sa tête.
Voilà, parce qu'il ne parle pas, mais il a beaucoup de choses à dire.
Bien sûr, et c'est le point de départ. C'est je suis parti d'un cas réel, qui est le fils d'un ami, et cet ami a eu la gentillesse, sur de longues années, on a beaucoup échangé ensemble, notamment à propos de son fils, et un jour, cet ami, en fait, me dit, la famille traversait une épreuve, et il me dit, en fait, je suis persuadé que mon fils, depuis un an, essaye de me dire des choses sur cette épreuve, parce qu'il a vu des choses, il a entendu des choses, parce que comme il ne parle pas, quand il est là, les gens en fait parlent devant lui, font comme s'il n'était pas là, et donc il a essayé de me dire des choses qu'il avait sans doute entendues ou vues et que à l'époque je n'avais pas comprises et que je relis maintenant que les événements sont avérés, et donc je suis sûr qu'en fait il comprend, et donc le point de départ c'est ça, c'est de dire que vu de l'extérieur, nous quand on regarde ces personnes atteintes d'un handicap mental aussi lourd, on a l'impression qu'ils sont loin, on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, on leur parle d'ailleurs d'une manière un peu bizarre, on adapte le langage, on adapte le ton, un peu comme on fait avec, c'est ce que dit Jérémy, avec les bébés.
Viens me dire bonjour mon grand,
voilà c'est ça, on leur parle pas de manière naturelle. Et peut-être, alors après les médecins pourront chacun avoir leur avis, mais en tout cas, moi le point de départ du livre c'est de dire, en fait ce sont des êtres humains, ils vivent une expérience, et donc en fait il se passe quelque chose. Et le seul problème c'est que, un peu comme le personnage d'Alice, c'est l'anorexique ne veut pas ne pas manger, mais n'y arrive pas. Et Jérémy, il voudrait communiquer, mais il n'y arrive pas.
Il n'y arrive pas. Il y a une forme d'enfermement, effectivement, dans vos deux histoires, dans vos deux romans, on en vient à ça, effectivement. C'est ce que souligne Jérémy, il y a des milliers de mots coincés dedans qui pourrissent en moi, parce que c'est ça aussi, c'est que il s'agit pas seulement de ne pas savoir parler, c'est de ne pas se résoudre à ça. Il continue à espérer, enfin en tout cas dans le personnage que vous avez
C'est ça, c'est comme décrit. Ça que je l'ai effectivement imaginé. Il se dit, je vois les phrases se former dans mon esprit, elles sont là, je sais ce que je veux dire, j'ouvre la bouche, je tends le cou, et puis tout reste à l'intérieur. Il y a comme un mur, effectivement, transparent, ça reste coincé dedans. Et donc là, après, il y a une violence, il y a une révolte, il y a une souffrance, parce qu'il n'y arrive pas.
Avec un entourage qu'on peut, j'allais dire, comprendre malgré tout, et on va encore parler du corps médical, mais le médecin dit bien, il ne sortira jamais de la prison dans laquelle il est enfermé. Ça, c'est brutal.
C'est un cas, effectivement, on m'a raconté cette anecdote, mais en même temps, je ne veux pas généraliser. Moi, j'ai pas fait un témoignage ou une thèse ou un documentaire sur le monde médical. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Donc, je pense qu'il y a un spectre assez large dans la manière dont les médecins peuvent réagir. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de médecins dans la préparation de ce livre pour vérifier un peu les choses que j'écrivais, qu'elles étaient crédibles. Et j'ai eu autant d'avis que de médecins à qui j'ai parlé. Donc, on sait très peu de choses sur le cerveau. Il y a un livre là qui vient de sortir qui s'appelle Neuromania, écrit par un neurologue qui remet en cause en fait tout ce qu'on pensait sur le cerveau. Qui dit, on a toujours dit qu'on utilisait que 10% de notre cerveau. En fait, c'est totalement faux. On utilise tout le cerveau. On a toujours dit qu'il y avait un cerveau droit, un cerveau gauche. C'est idiot. Et même dans le livre, Jérémy dit, parce qu'il l'a entendu, qu'il n'a pas la parole parce que c'est la partie frontale de son cerveau cerveau qui a été touché, endommagé, et que ça serait la partie qui dirige les fonctions de la communication. Et dans ce neurologue dans le livre, j'ai oublié son nom, pardon, dit en fait pas du tout. Il y a les fonctions ne sont pas localisées dans des parties précises du cerveau. Donc on sait très peu de choses. Et donc ça, leur corps défendant. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de soignants et beaucoup de médecins qui sont très dévoués et qui aident ces personnes-là. Mais il peut y avoir parfois une violence.
Vous le rendez très très attachant, Jérémy, quand il confie notamment à nous autres abîmés du cerveau, cerf-volant, on est toujours un peu triste du dedans.
Oui. Ben oui, parce que comme il ne peut pas l'exprimer, tout se passe dedans. C'est vraiment un roman pour le coup du fort intérieur, parce qu'il a bien fallu aller dans son fort intérieur, puisque c'est là que les choses se passent.
Et c'est comme manger, c'est naturel, parler, c'est naturel, et finalement c'est quand on en est privé qu'on se rend compte aussi de la valeur des choses.
Exactement, et donc je pense que pour lui c'est une souffrance, et pour nous il faut apprendre à le regarder d'une autre manière, si on se dit qu'en fait, ce qu'il exprime n'est pas ce qu'il ressent, n'est pas ce qu'il pense. Et il faut l'aider peut-être aussi à arriver à exprimer les choses. D'ailleurs, les parents, très souvent, me disaient ça. Ils disaient, en fait, un regard, on arrive à comprendre ce qu'il veut. Une intonation dans, effectivement, le ahannement ou le grognement par lequel il s'exprime. Et on arrive à savoir ce qu'il ressent. Mais effectivement, là aussi, ça peut... c'est le drame de l'absence de communication, de la difficulté à communiquer, qui est particulièrement vrai pour un personnage comme Jérémy, qui est peut-être aussi un peu vrai pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on est quand même dans un monde où on a un peu de mal à s'écouter les uns les autres.
Pas forcément se comprendre. Surtout quand il y a des expressions comme ça, la tête d'une girafe qui a avalé son goûter de travers. Alors, racontez-nous l'histoire de la girafe.
Il n'y a pas d'histoire de girafe, il y a l'histoire des mots, c'est-à-dire que Jérémy, nécessairement, il a son langage. Quand je me suis lancé dans...
Drôle.
J'espère, oui, parce que effectivement, pour aborder un sujet comme ça, quand on n'est pas soi-même concerné, pour le coup, la différence avec Alice, c'est que moi, j'écris sur une histoire réelle, avec des cas réels qu'on m'a raconté, des gens que j'ai vus, des gens autour de moi, des proches, notamment ce jeune homme qui sert de modèle à Jérémy, mais je ne suis pas concerné directement, je ne suis pas son père, et donc, il fallait, pour moi, trouver la bonne manière d'aborder ce sujet. Alors, le rire, pour moi, qui est un peu le propre du roman, nous permet, effectivement, sans doute, de dire des choses qui serait difficile de dire autrement, surtout avec un regard un peu extérieur. Mais Jérémy, pour moi, ça a été toute une partie, une phase très importante dans la construction du livre, ça a été de travailler sur son langage. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai dû reprendre le texte des dizaines de fois, parce que j'essayais de m'imprégner, alors je relisais des auteurs qui ont eux-mêmes inventé des langues.
Il y a plein de Faulkner, mots aussi.
J'ai picoré, parfois j'ai pris des mots...
J'ai été bien rassauté, par exemple.
Oui, voilà, après...
Qui veut dire
Je crois que c'est un mot d'argot au début, mais qui n'est plus vraiment utilisé. Mais on comprend ce que ça veut dire quand ça sort dans la bouche de Jérémy. Il y a des mots que j'ai inventés, il y a des mots qui me viennent de mes enfants quand elles étaient petites et que j'ai repris, mais qui au départ ne veulent rien dire. Mais en fait, on comprend, et je pense, j'espère. Et c'était ça, c'était vraiment de lui créer sa langue à lui, puisque comme il ne peut pas s'exprimer, il a sa propre manière de s'exprimer, j'allais dire.
On n'a pas parlé tout à l'heure, on aurait pu en parler avec Alice Develay, qui va réagir aussi, mais il y a la question du corps qui est importante, dont vous parlez aussi, c'est que forcément, Jérémy, il a besoin d'aide parce que effectivement, il n'a pas le langage, mais il a aussi des gestes désordonnés qu'il ne peut pas maîtriser. D'ailleurs, il dit lui, il ne sera jamais ni pianiste ni chirurgien.
Oui.
oui, il y a ce rôle du corps qu'on néglige souvent.
Comme les mots ne sortent pas, souvent c'est le corps qui prend le relais. Et donc, il crache, il agite les bras, il tape, il se fait mal, parce que je pense que c'est peut-être une expression d'une frustration de ne pas arriver à communiquer. Et puis c'est aussi parce qu'il, comme il le dit lui-même, il essaye de faire avec les moyens du bord. Et donc, puisqu'il n'a pas les mots, puisqu'il n'a pas le langage, il a toujours son corps. Et donc, il l'utilise comme il peut pour, malgré tout, faire sortir ce qu'il a en lui et qu'il n'arrive pas à exprimer à travers notre langage commun ou notre langage à nous. Donc, et j'ai essayé... Alors Jérémy, en plus, il est insensible à la douleur physique. Et ça, c'est effectivement une réalité aussi du modèle, qui est donc il a un rapport à son corps qui est tout particulier, parce que effectivement il ne ressent pas la souffrance physique. Mmh. Donc il a une sorte d'indifférence par rapport à son corps, qui pourtant est la seule chose qui peut lui servir d'une certaine manière à s'exprimer.
Mmh. Alice Develay, sur l'importance du corps, effectivement.
Mais oui, c'est vrai. Ce que je ressens aussi dans le personnage de Jérémy, c'est le personnage qui est prisonnier de son propre corps et donc qui se heurte à son propre palais, à sa propre bouche, qui essaye de parler mais qui est coincé et donc qui a ce grognement. Mmh. Et c'est vrai que dans mon roman, il y a aussi ce côté, le personnage est prisonnier de son corps. Et vous parliez de la souffrance à ce moment-là et ça m'intéresse tout particulièrement parce que si lui ne ressent rien, le personnage d'Alice non plus, mais essaye de le ressentir justement par la scarification, par la douleur qu'elle s'inflige pour essayer d'être en contact avec la réalité. Le seul moment où elle est en contact avec la réalité, c'est la souffrance. Et donc justement, moi, ça m'a interrogée à travers le personnage de Jérémy, parce qu'il le dit, en général, les autistes, ils détestent qu'on les touche, et lui, il est là. Mais en fait, j'aime bien qu'on me touche, j'aime bien ce rapport à la réalité. Et en fait, j'ai l'impression qu'il cherche tout le temps ce rapport au contact physique, qui soit absolument qu'on l'intègre dans le réel, alors qu'il est si peu dans le réel, parce que personne ne lui parle vraiment comme à une personne réelle. On l'intègre pas dans la réalité, on le met de côté. Déjà, ne pas avoir le langage, c'est déjà être mis de côté, parce qu'on est des êtres de langage. Donc j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi dans le livre. Et vous disiez tout à l'heure que tout l'enjeu, c'était justement de donner un langage à Jérémy, mais c'est totalement, c'est parfait en fait. C'est vraiment un langage qui est à la fois très drôle et très triste à la fois. On alterne, on a vraiment tout ce mélange d'émotions, c'est un tourbillon de contradictions. On se dit, mais il est extrêmement amusant ce personnage, et en même temps on est très triste, parce que sinon on était confronté à lui, à la réalité, dans la réalité, comment on se comporterait? Est-ce qu'on serait vraiment ce genre de personne qui dirait, mon pauvre garçon, ça va? Ou alors justement, est-ce qu'on essaierait de lui parler normalement, mais en étant confronté à quelqu'un qui n'agit pas normalement, avec des guillemets, comment on se comporterait? Est-ce qu'on agirait vraiment comme on aurait envie d'agir? Et donc ça pose tout plein de questions, et il est extrêmement attachant et très réussi, ce personnage. Merci. On a envie d'y croire, on a vraiment envie de l'aimer, en plus, vraiment très envie de l'aimer.
Et dans le centre, hein, dans lequel il va passer ses journées, et puis à la maison aussi, on va petit à petit inventer un système de photos, de pictogrammes, pour qu'il puisse, par un geste plus ou moins adroit, indiquer ce dont il a besoin. Ça m'embistrouillait sérieusement, cette nouvelle manie, parce que du coup, il est réduit à... Ça y est, on l'a compris, et ça suffit comme langage. Et ça, c'est pas supportable pour lui.
Peut-être que c'est ça qu'il y a dans sa tête, je ne sais pas. Mais les pictogrammes, oui. Alors les soignants utilisent ça, hein, dans tous les centres, les IME. Donc Jérémy, lui, il n'y était pas réceptif. Et puis un jour, effectivement, sa sœur va lui montrer des photos qu'elle prend sur son portable, et là, ça va fonctionner. Elle va lui dire, mais pour lui faire choisir un plat à la pizzeria, elle lui montre des photos.
Une scène, voilà, très drôle aussi, des plats, voilà.
Et ça, c'est une scène à inventer. En revanche, ce qui est vrai, c'est que oui, le modèle de Jérémy est venu assez tard, en fait, à ces pictogrammes. Ça existait autour de lui, mais il n'y réagissait pas. Et puis, à un moment donné, ben voilà, il y a un progrès qui se fait, et parce que ce sont aussi des gens qui évoluent, qui sont capables de progrès. Et puis, ils trouvent ce moyen-là pour s'exprimer. Donc ça, c'est très beau. Enfin, mon ami, quand je le vois avec son fils, oui, il lui sort son portable, et puis hop, il fait tourner les photos là comme ça avec son doigt, et puis il dit, Jérémy, vas-y, et puis voilà, ils arrivent à communiquer comme ça. Donc ça, c'est beau, oui.
C'est vrai que on a parfois effectivement du mal à entrer en contact avec avec les Jérémy en général, on va dire comme ça. Et en même temps, vous décrivez aussi un entourage qui est à la fois perturbé mais en même temps attentif, qui essaie toujours de l'associer. Il y a cette charge importante aussi pour l'entourage qu'il faudrait évoquer.
Bien sûr, j'ai pas voulu en faire des héros, des parents, des soignants, parfois, parce que j'ai voulu rester vraiment très proche de la réalité quotidienne. Et donc, dans la réalité quotidienne, c'est des petites choses, et puis c'est des tas de questions, c'est du désarroi, c'est de l'amour, mais qui s'exprime, qui se cherche, qui parfois ne se trouve pas. Donc, c'est certain que les parents de Jérémy sont à la fois très aimants et en même temps un peu perdus, désorientés, parce qu'ils entendent des médecins avec des contradictions, ils cherchent. Et ça, j'ai pu le vérifier. Enfin, j'ai parlé à beaucoup de parents d'enfants atteints de handicap mental. J'en ai dans mon entourage, des amis. Et donc ça, je sais que c'est toujours un chemin très très long et plein d'amour, quoi. Donc ça, j'ai essayé, oui, de le retranscrire, j'allais dire, aussi un peu dans le livre.
Et ce qui lui fait, ce qui le fait rire aussi, Jérémy, c'est quand subitement tous les autres personnes qu'on dit normales se mettent à devenir des avaleurs de brouillard. Alors expliquez-nous, vous utilisez un petit événement qui a mobilisé toute la planète d'ailleurs.
Certes, donc alors avaleur de brouillard, c'est une expression que j'ai piqué à Rabelais, pour être tout à fait clair. C'est une expression qui est dans Rabelais, et donc voilà, j'aimais bien. En soi, ça veut à la fois ça ne veut rien dire de précis, et en même temps, je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. L'événement, c'est effectivement le confinement. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes discussions avec les parents et avec les médecins et les gens dans les IME. C'est que le Covid et les confinements ont été une période dramatique, parce que ce qui se passe avec Jérémy et ce qui s'est passé dans la réalité, je pense, c'est que ces personnes ont régressé.
Comment supporter un masque, d'une part?
Alors déjà, il y a l'aspect physique de supporter le masque qui était, enfin, tout simplement...
Oui, parce que déjà, il dit souvent, hein, je n'aime pas l'imprévu, j'avais pas été prévenu, ça c'était quand le chien arrive dans la famille, mais il n'aime pas l'imprévu, et on peut comprendre.
En général, c'est le cas, oui, donc parce que,
donc là, avec les masques, le personnel masqué...
Un matin, il arrive à son centre, à l'IME, et puis il voit effectivement toutes les soignants... Toutes les AMP, les éducatrices, éducateurs qui sont avec un tissu. Lui, il voit un tissu. Et puis d'ailleurs, après, ils lui disent que c'est des masques. Et lui, il voit bien que c'est pas des masques, parce qu'un masque, c'est comme Zorro.
C'est pourri.
Tandis que elles ont pas de masque, elles ont un tissu. Et donc, il comprend pas pourquoi elles ont un tissu. Et alors, quand en plus elles essayent de lui en mettre un et d'en mettre aux autres résidents du centre, là, ça devient effectivement un peu compliqué. Je crois que ça a été une période très dure pour. J'ai eu beaucoup de témoignages touchants pour les soignants, pour les parents et pour, encore une fois, ces personnes atteintes de handicap mental, parce que ça a été une phase de régression, parce que comme ils ont besoin d'être en permanence stimulés, soutenus, ils progressent, encore une fois, Jérémy progresse, et le confinement est venu un peu casser son ascension, sa courbe de progression, et tout à coup, il est confronté à un monde qui ne le comprend plus, puisque effectivement...
On change les repères.
On change les repères, et donc lui se dit, mais en fait, ils deviennent fous, et comme il le dit même, comme il n'est pas un imbécile, hein, il est peut-être atteint d'un handicap mental, mais c'est pas un imbécile, c'est en plus un poète, et il se dit, mais comment, qu'est-ce que je vais devenir, et qu'est-ce qu'on va devenir si les gens normaux deviennent fous? Alors il se dit, peut-être qu'il faut que je devienne normal pour m'occuper des gens normaux qui sont devenus fous. Enfin voilà, donc ça se mélange un peu dans sa tête, nécessairement, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, voilà, j'ai imaginé ça comme ça, parce que je sais que ça a été une grande souffrance pour eux, pour ces personnes-là, la période du confinement, et ils l'ont vécu aussi à leur manière, donc... Ce qui m'a intéressé aussi dans le fait de rentrer dans la tête de Jérémy, c'est pas simplement de décrire c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses souffrances, ses sentiments, etc. Ça, c'est une partie, mais c'est aussi de nous donner à voir son regard sur nous et sur notre monde. Et donc, le confinement, nous, on peut l'expliquer, on peut le comprendre d'une certaine manière. Pour quelqu'un comme lui, il va le voir d'une autre manière qui va peut-être faire ressortir certaines absurdités. Bon, même si là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin de beaucoup se forcer pour voir le caractère absurde d'un certain nombre de mesures. Mais en tout cas, vu à travers ses yeux à lui, je pense qu'on le perçoit encore d'une autre manière.
Ouais, les gens normaux vrillés de travers, dit-il. Allez-y. Qu'est-ce que vous diriez encore sur le livre de Laurent Seyer?
Quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est la relation avec la famille. Hein. Le père, la mère, la sœur. J'ai trouvé ça extrêmement touchant parce qu'on sent absolument l'amour de cette famille qui parfois sort mal. La sœur, elle est très dure à l'égard de son frère qu'elle voit parfois comme un débile, hein, en fait, tout simplement. Elle est très dure, mais en même temps... Elle a honte de lui, mais elle est adolescente, donc c'est pas qu'on lui pardonne, mais on comprend à quel point on est parfois stupide et juste méchant, en fait, à cet âge-là. Mais tout cet amour qui sort parfois par des larmes, qui essaye de sortir par des rires, où on essaye de partager aussi avec Jérémy ce qu'on aime soi-même, donc un match de foot, un concert... de la nourriture, enfin c'est parfois des choses très simples et ça sort extrêmement bien, c'est doux, c'est un livre très doux, d'une grande douceur et en même temps poétique, on en a parlé, mais vrai, en fait il est sensible, on sent la chair des personnages, on sent le réel derrière, mais à la limite que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai comme histoire, on s'en fout, mais ce que je veux dire dans le réel, c'est-à-dire qu'on sent l'émotion, on sent que vous avez été vraisemblable et que vous avez été sincère quand vous l'avez écrit, et ça ça fait partie des meilleurs romans en fait, on se dit je partage une émotion, j'y suis quoi, je le sens, et voilà, moi c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans votre livre.
Des romans qui disent vrai, par exemple. Quand on comprend mieux ce qui se passe autour, c'est plus facile de vivre en paix dedans avec soi-même. Ça, c'est une leçon qu'on pourrait tous retenir.
Oui, et eh ben je pense que Jérémy nous donne beaucoup de leçons. Mmh. C'était ça aussi un peu mon ambition. Je pense qu'à faire l'effort d'essayer d'écouter ces gens qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas la parole, d'essayer de se mettre un peu à sa place. D'une part, je pense que encore une fois, dans la société d'aujourd'hui, c'est une leçon qui ne peut être qu'utile parce qu'on a quand même un peu l'impression que c'est ce dont on souffre de ne plus savoir faire ça. La littérature nous le permet. Moi, à titre personnel, en tant qu'écrivain, ça a été une des grandes richesses de cette expérience d'écriture, effectivement me rentrer dans le corps et dans l'esprit de Jérémy, se mettre à la place d'un autre qui n'est pas moi, qui est différent de moi.
C'est l'empathie.
Et c'est quand même ce qui manque un peu dans notre vie collective, on va dire. Et donc, je souhaite que ça soit une des leçons que si certains responsables politiques et autres pouvaient lire le livre et de cette manière, ça, il aurait été utile.
J'ai pas les mots, Laurent Seyer, c'est paru chez Finitude. Vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre ? On vous écoute.
Avec plaisir. Je crois que la cause réelle de mon malaise permanent est sans rapport avec les intestins. Bien sûr, je suis pas docteur, mais je réfléchis un peu avec la partie pas cassée de mon cerveau cerf-volant. Et je vois bien que le problème, c'est pas ce qu'on a mangé. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas mangé de brocoli. La cause du malaise, ce sont les mots. Ces milliers de mots coincés dedans qui pourrissent en moi depuis ma naissance. Des mots morts d'avoir pas pu être dits. Il se décompose sur place. C'est un peu écœurant. On vit pas bien avec un cimetière de mots à l'intérieur. Et parfois, des mots zombies s'échappent, comme dans le clip de Thriller. Ce sont toujours les mêmes. Ils arrivent à plusieurs, toujours dans le même ordre. Ils sortent leurs petites têtes des tombeaux. Ils s'extirpent à la force des bras et forment une longue phrase carnaval que je suis le seul à entendre dedans. Les moufailles ont estanqué la banaudière. C'est la danse des mille, sans appât, sans pouvoir. Les maisons enfanées rabinent les jonquilles. J'agriffe et je guire, je chane et je fends. C'est la danse des mille. Même si tu froges, même en vrillant, la curale du matin se fait floraison, trotte l'échelon, trotte les digues. Devant, devant, frotte l'échelon, frotte les digues. Dedans, dedans.
Take a ride, je vais me balader. Faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est l'anglais. Enfin, I wanna go to Mama Gouche, that way. Rendez-vous 11h au studio, tout le monde est à l'heure. C'est encore le French singer. Demain je retourne au pays. Demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui. Alors on improvise.
J'ai pas les mots, Michel Jonas, Groovy Baby Groove.
Groove Baby Groove.
Groove Baby Groove,
c'est le titre
voilà
de la chanson.
Le titre de la chanson, Michel Jonas. C'était en 1992, au pied de la lettre avec Alice Develay. Pour Tomber du ciel, c'est publié à l'Iconoclaste et Laurent Seyer. Pour J'ai pas les mots, c'est chez Finitude.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Dans la petite bibliothèque de la semaine, je cours à toute vitesse vers rien et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Ainsi commence le récit de Julie Bonny qui raconte le départ naturel de ses deux enfants qui prennent leur envol. Oui, mais comment vont-ils se débrouiller et que va faire la mère ainsi délaissée de sa progéniture ? Avant d'être mère, je n'avais jamais ressenti que je pouvais être précieuse. Et si, toutes les catastrophes sont imaginées, pourtant, ben ça devrait bien se passer. Mes enfants sont partis de Julie Bonny et publié chez Grasset. Et puis encore à 14 ans, eh bien c'est l'âge tranquille des copains, les collèges, la famille. L'adolescent voit l'avenir s'ouvrir devant lui avec envie ou crainte, surtout quand le monde devient hostile. Ça s'appelle le harcèlement scolaire. C'est l'histoire de Gabriel, laissé à lui-même, un roman. Laissé à lui-même parce que personne n'a vu venir l'affaire. Hein. C'est un roman essentiel. Un printemps en moins d'Arnaud Dudek est publié par Les Avrils. L'écriture est forcément un échec, avez-vous écrit, Alice Develay. Je vais aller chercher ça à la page 149, très exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que les mots enferment, peut-être?
Il y a beaucoup de malentendus avec les mots. Je pense que souvent, on s'est mis d'accord sur la définition des mots et c'est pour ça qu'on arrive quand même à communiquer. Mais on le disait tout à l'heure, il y a un échec du langage assez fréquent où on a du mal à communiquer, à mal s'entendre. Et souvent, les mots deviennent des mots valises qui finalement finissent par se vider d'eux-mêmes et ne plus dire vraiment ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on entend par le mot liberté? Qu'est-ce qu'on entend par le mot démocratie? Qu'est-ce qu'on entend par le mot maladie? Qu'est-ce qu'on entend par le mot souffrance? C'est très difficile d'arriver à doser. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu souffres? Donc, on essaie de dire sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes quand tu souffres? Donc on essaie de mettre des mots sur des mots, mais plus on met des mots sur des mots, plus j'ai l'impression qu'on s'éloigne au lieu de se rapprocher. Donc souvent j'ai l'impression qu'il y a un échec du langage plutôt qu'une réussite.
En effet, je ne sais pas si vous signez, Laurent Seyer, quand Alice Develay écrire, l'écriture est forcément un échec, une défaite, un malentendu entre ce qu'on veut dire et ce qu'on écrit. La vie ne peut pas tenir dans un cahier, il restera toujours du blanc entre les mots, entre les lignes. Peut-être, heureusement.
Peut-être, heureusement, oui, parce que à la fin, ce qui compte, c'est la relation entre les personnes, je pense. Mais les mots, enfin, en tout cas, moi, à travers le personnage de Jérémy et sa souffrance de ne pas pouvoir les exprimer, ces mots, ça m'a aussi quand même refait prendre conscience du fait que les mots sont précieux et que la langue est précieuse et qu'il faut donc la respecter, qu'il faut l'aimer parce qu'elle est un bien commun. Jérémy souffre de ne pas avoir les mots parce que ça l'isole. Et il faut pas oublier ça, c'est que la langue, elle nous appartient pas. Elle est un bien partagé. Elle est là pour créer du lien entre nous. Et donc, il faut qu'on la préserve pour ce qu'elle est.
Je reprends encore une citation d'Alice dans votre livre. Nous sommes faits d'histoire. Nous ne pouvons pas vivre sans faire d'histoire. Laurent Seyer, oui. C'est ça aussi qui vous pousse à écrire les histoires.
Alors je pense que effectivement le roman aujourd'hui, je me demande même parfois si ce n'est pas le seul moyen, l'ultime moyen qui nous reste pour dire la réalité. La réalité est tellement violente, on est tellement polarisé, on est tellement plus ouvert aux opinions des autres, que en fait, comme le disait Alice Develay, passer par la fiction, passer par le roman, peut-être que c'est le meilleur moyen de dire la réalité. Voilà.
Oui, Alice Develay, c'est votre métier, critique littéraire. Oui. Vous voyez des histoires, vous lisez des histoires à longueur de journée. Oui, et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie, d'imagination, de valeur, de choses.
J'aurais pas dit d'imagination. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qui sont écrites. On est sur un palimpseste d'histoires. Tout a déjà été écrit, mais la seule chose qui change, c'est la manière dont on l'écrit. Et je cherche du style, je cherche de l'écriture, parce que si toutes les histoires ont été écrites, qu'est-ce qui reste? Et c'est vrai que dans la littérature contemporaine, j'ai un peu de mal actuellement à trouver de bonnes histoires, parce que, encore une fois, beaucoup de choses ont déjà été écrites. Donc, bonnes histoires signifie bonnes plumes. Je les cherche.
Allez, un exemple quand même, non?
C'est difficile. Oh, si, mais il y en a eu quand même
exemple,
à la rentrée.
Laurent Seyer, un exemple, un titre de livre aussi, allez l'un et l'autre.
Allez-y, Laurent.
Moi, je suis en train de lire Patrice Jean, La vie des spectres.
Voilà, qui est venu nous en parler il y a 3 semaines.
Moi, j'ai beaucoup aimé Adrien Born chez Lattès. C'est un livre qu'on n'a pas assez défendu dans cette rentrée littéraire et il faut le lire, L'île du Là-Haut.
Voilà, L'île du Là-Haut. Et il est venu, lui aussi, à ce
micro,
au pied de la
Bravo.
Lettre. Voilà. On arrive au terme de l'émission. Il faut que je me dépêche. J'ai pas les mots. C'est le livre de Laurent Seyer, publié chez Finitude. Tombé du ciel, Alice Develay, à l'Iconoclaste. Merci à Cédric qui était à la réalisation. Voilà, au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec de bonnes histoires.
Cette année dans l'histoire, c'est tout de suite sur RCF et c'est en compagnie de Bruno Fuma.
Aujourd'hui, 1572, avec le pape Grégoire XIII qui succède à Pie V, la France est ensanglantée par le massacre de la Saint-Barthélemy. Et puis Marguerite de Valois épouse Henri de Navarre. Avec nous pour en parler, Alain Joblin, auteur d'une biographie de Marguerite de Valois qui sort chez Ellipse.
Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leurs univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héningue, c'est chaque dimanche à 23h.
Chaque dimanche, un prêtre vous répond sur RCF. Une émission qui permet à tous les auditeurs d'avoir une écoute et la possibilité de parler à un prêtre. Un temps précieux pour celles et ceux qui sont ou se sentent isolés. Un prêtre vous répond, c'est chaque dimanche à 21h sur RCF.
Vous écoutez RCF à Montluçon sur le 107 FM.